France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Pierre Neveu.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour une heure de débat d'idées sur France Info. Laissez-moi vous présenter nos informés du samedi soir. Bonsoir Amnous Salmadini.
Bonsoir.
Journaliste, réalisatrice, écrivain. Vous avez publié un magnifique roman chez Grasset intitulé « Les exilés meurent aussi d'amour ». Il est question de l'exil, d'une famille qui cherche ses marques sur fond de militantisme révolutionnaire, mais aussi d'inceste. Et d'amour, une saga familiale tragicomique. On va en parler dans ces informés. Bonsoir, Laurence Nardon.
Bonsoir.
Docteur en sciences politiques, chercheur responsable du programme États-Unis à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. À la mi-octobre, vous avez publié Les États-Unis de Trump en 100 questions chez Taillandier. Bonsoir, Laurence Fischer.
Bonsoir.
Vous avez fondé l'an dernier Fight for Dignity, une association, un programme sportif qui aide les femmes victimes de violences à se reconstruire par le sport. Je précise que vous avez été triple championne du monde de karaté, mais aussi triple championne d'Europe de karaté. Bravo. Bonsoir Benoît Fidélin.
Bonsoir.
Journaliste, directeur de la rédaction du magazine Le Pèlerin. Alors au sommaire de ces informés de France Info, le 6e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, toujours des opérations escargots, des blocages, des péages gratuits, une déambulation parisienne. Plus d'une centaine d'interpellations, quelques lacrymos, mobilisation en baisse, mais les gilets jaunes ne cèdent pas. Les temps sont durs en ce moment à la Maison-Blanche. Un militaire claque la porte, le secrétaire à la Défense. Vous avez le droit d'avoir un secrétaire d'État plus en phase avec vos idées, écrit James Mattis au président Trump. Plus que jamais en froid avec les militaires, mais aussi avec le Congrès américain qui ne veut pas lui accorder les crédits nécessaires pour la construction de son mur sur la frontière avec le Mexique. Et puis, dans ces informés, nous parlerons des réfugiés, des migrants, des exilés qui partent en abandonnant presque tout et en espérant presque rien. Ce sont vos mots, Amnous Salmadini. Nous parlerons aussi de ces femmes victimes de violences et qui se reconstruisent par le sport. Soyez les bienvenus dans ces informés. Et tout d'abord, on ouvre le premier débat de ces informés sur cet acte 6 des Gilets jaunes. 38 600 manifestants, ce sont les chiffres fournis en fin d'après-midi par le ministère de l'Intérieur. Quelques mobilisations en région, notamment à la barrière de péage du Boulou, près de Perpignan, où un accident a coûté la vie à un automobiliste la nuit dernière. C'est la 10e victime de ce conflit social, sociétal. Première réflexion, Benoît Fidélin. Il y a dans ce mouvement déjà plus de victimes que lors des manifestations de mai et juin 68.
Voilà, tout à fait. Il n'y a pas le fameux préfet de l'époque, les préfets de police et puis les beaucoup de mouvements violents étaient alors circonscrits à Paris. 10 victimes, c'est absolument, c'est très important. Alors, comme vous l'aviez dit, comme vous venez de le dire, par vos chiffres, le mouvement s'essouffle, hein, s'essouffle parce qu'il y a eu des gestes du gouvernement. Il s'essouffle aussi pour une raison qu'on arrive près des fêtes, près de Noël, et qu'un mouvement comme ça, sans une véritable colonne vertébrale politique, ni des représentants, ni une organisation, une logistique totale, ne peut que s'essouffler au bout d'un certain temps. Cependant, on aurait tort de penser qu'il va complètement disparaître, parce qu'il vient de très très loin. Il vient de très très loin, moi, enfin, qui a la chance d'être journaliste depuis longtemps. Je l'ai vu arriver, comme vous, en 2005, avec le référendum, et on l'a vu en 2008 aussi, au moment de la crise économique. Et puis moi, on l'a ressenti très fort entre les deux tours des élections présidentielles. Moi qui ai énormément de racines en province, d'activités, de loisirs en province, qui dirige un journal qui est lu par des provinciaux, surtout, dans tous les villages et hameaux de France.
On rappelle Le Pèlerin.
Ouais, c'est 150 000 exemplaires, mais 600 000 lecteurs pour la plupart dans la France rurale. Et ce qui remonte, c'est effectivement d'abord un profond dégoût, une profonde opposition aux extrémismes qui sont maintenant à la tête des Gilets jaunes, mais c'est aussi une injustice, une volonté de bâtir quand même une société beaucoup plus juste, avec moins d'inégalités, et que ça, comme ce que je vous dis, ça vient de loin, donc ça peut durer longtemps.
Amnous Salmadini, justement, ce mouvement est récupéré, on peut le dire, par les ultra-droite, ultra-gauche. On a même entendu aujourd'hui des soutiens à, je dirais entre guillemets, à l'humoriste antisémite Dieudonné.
Oui, enfin, le humoriste, moribondo, quand il s'agit d'antisémitisme, non, c'est toujours pareil. Quand un mouvement s'essouffle, et effectivement, vous avez tout à fait raison, le fait qu'il n'y ait pas de représentation, que ça soit pas structuré, c'est évidemment le risque qu'à la fin, ce soit les extrêmes qui prennent. Ce qui était de toute façon inquiétant depuis le début, c'est le fait de voir, durant les manifestations, l'extrême droite et l'extrême gauche, qui jouaient le même jeu sur le terrain. Parce qu'ils ont tous les deux véhiculé une théorie que je trouve de tout temps dangereuse, qui est le fait que sur le chaos, on peut bâtir et on peut prendre le pouvoir. Et ça, c'est autant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Donc nous sommes en France, nous ne sommes pas en Italie, donc cette collusion ne s'est pas encore faite au niveau politique. Mais quand quelqu'un, un député de la France Insoumise, comme le député Ruffin, soutient quelqu'un comme Étienne Chouard, qui est le roi du complotisme, qui a commencé par soutenir Messiaen, et donc le 11 septembre était peut-être fomenté par les Américains et qui continue, là, on est dans un moment grave, puisque c'est Ruffin et quand même à l'Assemblée nationale. Donc je ne sais pas si ça va aider le retour des Gilets jaunes vers la politique, parce que je crois qu'avant tout, et c'est là, vous disiez 2005, moi je dirais Chirac et la fracture sociale. Ça fait très longtemps où la France d'en haut, la France d'en bas, de Raffarin, ça fait quand même très longtemps que ce problème est sur la table, et je crois que c'est vraiment profondément une crise de la citoyenneté. Et là, je vais utiliser un mot d'avant, mais qui est toujours essentiel, c'est ce fameux contrat social. C'est qu'il faut qu'on comprenne ce qu'un citoyen, c'est quoi les droits, c'est quoi les devoirs, qu'est-ce que ça veut dire payer des impôts, qu'est-ce que ça veut dire de payer des taxes, qu'est-ce que le temps politique. On a oublié en plus avec le quinquennat que le temps politique était un temps long, c'est un temps de réflexion. Une loi qui est votée, il n'y a pas ses effets au bout de 3 mois, il faut revenir, il faut relire Paul Virilio sur la vitesse, il faut se rendre compte que finalement l'homme vis-à-vis du politique n'a pas tant évolué que ça. Ce qui a totalement changé les donnes, c'est la vitesse accompagnée par les réseaux sociaux, l'instantanéité de la réaction. On est dans un monde d'émotions, de violence, de passion spontanée. Moi je rêve qu'on mette de la passion, mais mettons-la dans l'amour, la littérature, les arts, et en politique, soyons bêtement, bassement pragmatiques, et peut-être qu'on arrivera à un moment de justice sociale en constatant d'une manière pragmatique les inégalités.
On va poursuivre ce débat désinformé dans un instant, mais avant cela, à 20h10, très précis, on fait un nouveau point sur l'info avec vous, Romain Desec.
À près de 39 000 manifestants partout en France pour le 6e acte des Gilets jaunes, mobilisation plus faible que samedi dernier à la même heure. Ils étaient environ 2000 à Paris, selon les forces de l'ordre. Quelques tensions, mais pas de dégradation. L'un des initiateurs du mouvement, Éric Drouet, a été placé en garde à vue pour manifestations illicites et port d'armes prohibées. En région, certains axes frontaliers ont été bloqués, notamment au péage du Boulou dans les Pyrénées-Orientales, où 2 journalistes de France 2 ont été agressés. À Toulouse, Bordeaux, Amiens ou encore Rouen, des échauffourées ont éclaté avec les forces de l'ordre. Chérif Chekat, l'auteur de l'attaque sur le marché de Noël de Strasbourg, a prêté allégeance à l'État islamique. Une vidéo a été retrouvée sur une clé USB lors d'une perquisition. Daesh avait revendiqué l'attentat, revendication qualifiée d'opportuniste par le ministre de l'Intérieur. Chérif Chekat a été inhumé ce matin dans le plus strict anonymat à Strasbourg. Des sapins de Noël au beau milieu du Tchad, les soldats de la force Barkhane réveillonnent en ce moment avec Emmanuel Macron. Les cuisines de l'Elysée ont fait parvenir le repas de Noël pour 1300 soldats. Dans l'Indre, près de 300 personnes ont bloqué un train en s'asseyant sur les voies ce midi en gare d'Argenton-sur-Creuse. Elle réclame depuis 9 mois davantage de dessertes sur cette ligne qui relie Paris à Toulouse. Et puis 9 rencontres de Ligue 1 ce soir, juste avant la trêve hivernale. Les 2 derniers du championnat, Monaco et Guingamp, s'affrontent. Le PSG reçoit Nantes, coup d'envoi 21h.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
On continue notre débat des informés consacré à cette 6e journée de mobilisation des Gilets jaunes avec quelques manifestations, peu d'incidents. Benoît Fidélin, Laurence Fischer, Laurence Nardon, Amnous Chalmani autour de cette table. Ce mouvement des Gilets jaunes, Laurence Nardon, permet aux Français de tous bords de s'exprimer jusqu'au plus infréquentable. C'est un grand défouloir jusqu'à des expressions haineuses et antisémites en ce moment.
Et violente. Enfin, vous savez, moi, je suis américaniste et donc j'ai pas beaucoup de légitimité pour parler des Gilets jaunes, mais je suis très frappée par la ressemblance sociologique qu'il y a entre les Gilets jaunes français et l'électorat de Trump populiste. Enfin, pour sa partie populiste, c'est vraiment exactement les mêmes problèmes de désindustrialisation, de sentiment d'abandon, etc. Et du coup, en comparant, je suis très frappée par deux points. Le premier, c'est que vous parliez, madame, de contrat social et de hausse des inégalités. Et pendant longtemps, depuis 2016, quand Trump a été élu, on pouvait se dire, en fait, en France... Les équivalents de l'électorat de Trump sont tellement protégés par le système de redistribution français qui, par rapport au système américain, est quand même infiniment meilleur, évidemment. On pouvait se dire que une telle colère n'arriverait pas en France. Et donc, on constate que pas du tout, il y a exactement la même colère qui survient. Et en revanche, là où je vois une différence, c'est que aux États-Unis, l'équivalent des gilets jaunes, pour parler très vite, n'est pas du tout tombé dans la même violence que ce qu'on voit aujourd'hui en France. On n'a pas vu les électeurs de Trump casser les vitrines sur la 5e avenue ou casser des abribus à Washington, etc. Et je trouve ça quand même très intéressant. Et je pense que là, il faut pointer en France une sorte de légitimité de la violence en manifestation. Si vous voulez, lorsque votre l'égalité entre citoyens est bafoué, vous avez le droit à la violence. Et ça, c'est un souvenir de notre révolution, des révolutions du 19e siècle, on en a fait plein. Alors qu'aux États-Unis, ils en ont fait une en 1776, qui était fondatrice, et depuis...
Ils ont eu la guerre de sécession aussi. C'est-à-dire, quand ils sont allés dans la rue, c'est pour se faire une guerre civile. Je pense que elle a énormément marqué. Non, mais ça a énormément marqué, je pense, les Américains. Ils ont moins la culture de la manifestation. Ce qui est grave en France, et là, vous avez tellement raison, c'est qu'on a cette idée qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, en oubliant que personne ne goûte l'omelette à la fin. Donc, c'est vrai que l'État, en plus, là, l'exécutif a très mal réagi, puisqu'elle a attendu que les violences atteignent un paroxysme pour enfin se mettre à table et commencer les négociations. Ce qui est une erreur fondamentale de l'exécutif qui n'a fait que légitimer certaines formes de violence.
Laurence Fischer, ce combat des jusque-boutistes en ce moment qui s'exprime par la violence. Hier à Angoulême, il y a même un pantin à l'effigie du président Macron qui a été décapité. Le procureur d'Angoulême s'est servi de cette affaire pour ouvrir une enquête. Ce combat des jusque-boutistes de certains, ça dessert forcément le mouvement.
Oui, effectivement, moi je pense que c'est
un mouvement au départ social sur des revendications de pouvoir d'achat.
Ça dessert, et je pense qu'ils perdent en crédibilité dans leurs revendications. Après, voilà, j'ai pas de ma spécificité fait que je ne peux pas.
Benoît Fidélin.
Oui, moi je voulais dire, je disais tout à l'heure que ça vient de loin. C'est très intéressant ce que vous avez dit sur les États-Unis. Ça vient de loin parce que je pense qu'un pays, moi je suis arrivé sur le marché du travail il y a plus de 40 ans avec le chômage. Et depuis 40 ans, ce pays est lacéré par le chômage de masse. Un chômage dont on a fait le choix en France, je pense, parce qu'on n'a pas pris les mesures qu'il fallait et que d'autres pays prennent. Donc il y a ça. Et puis il faut se poser une question que vous avez effleuré très bien avec les questions sociales. Une question à laquelle j'ai une réponse que j'ai du mal à formuler, mais que je pose d'abord. Comment se fait-il que dans le pays qui, avec le Danemark, consacre le plus de son PIB, 32% aux transferts sociaux, c'est-à-dire près de 900 milliards d'euros par an, tant de gens se sentent abandonnés. C'est-à-dire qu'il y a des pays comme la Suède où quand on met 100 euros dans l'État, après la gestion, la redistribution aux fonctionnaires, il en sort 65 pour être distribué. En France, il en sort 35. Quand on aura posé cette question-là...
C'est ce fameux pognon de dingue.
Oui, c'est ce fameux pognon de dingue, même si l'expression, elle peut être malheureuse, elle est vraie. Ça coûte, mais parce que il devrait y avoir... On a les impôts les plus importants et on a une redistribution qui ne marche pas. Et c'est ça aussi qu'il faut changer. Bon, et puis, d'autre part, on est dans un pays, moi j'ai la chance d'y avoir fait énormément de reportages, où depuis 40 ans de chômage de masse, c'est toujours les mêmes régions, toujours les mêmes populations qui gagnent avec la mondialisation, qui créent des emplois, et toujours les mêmes qui souffrent, qui sont des industrialisés. Et donc ça s'écarte.
Laurence Nardon.
Plusieurs choses. Je suis choquée par le chiffre de la déperdition que vous indiquez, 35 sur 100, enfin 35 énorme. Qui restent sur 100 d'impôts. C'est très choquant. Mais en même temps, cette histoire de redistribution qui laisse quand même un sentiment d'abandon, montre bien que c'est pas juste le pouvoir d'achat qui est en jeu, c'est le sentiment psychologique, le ressenti de l'abandon. Mais pour revenir au problème du chômage de masse, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est vraiment un problème depuis... moi, je me souviens, depuis mon initiation au problème politique de ce pays, c'était déjà le chômage. C'était il y a très longtemps et ça n'a pas changé. Alors, j'ai étudié l'économie américaine et j'ai appris avec stupeur que C'est comme si aux États-Unis, ils avaient fait le choix d'avoir des salaires très bas et très peu de protection sociale. Et du coup, il y a de l'emploi pour tout le monde. Et c'est comme si chez nous, alors je ne suis pas économiste, donc je parle sous votre contrôle. C'est comme si chez nous, en France, on avait fait le choix inverse, c'est-à-dire d'avoir des salaires, des CDI, des choses qui marchent bien pour les classes moyennes un peu hautes. Et puis du coup, le prix à payer, c'est un chômage de masse. Alors je ne sais pas si c'est exact économiquement.
Abnou Chalmani.
Je ne sais pas si c'est exact économiquement, mais c'est très étonnant, effectivement. Moi, c'est quand j'ai découvert ces chiffres-là sur la redistribution, peut-être qu'il y a aussi un besoin, mais alors là vraiment, de transparence. On utilise ce mot à tort et à travers, mais ça serait vraiment intéressant de voir où se perd cet argent de dingue. Oui, parce que cet argent qu'on a, est récolté, qu'est-ce qui s'est passé,
c'est l'État qui est rouillé, on est déficient et dispendieux et qui est obèse aussi. C'est ça. Et qui doit avoir des priorités.
Donc il faut redéfinir tout. Il faut redéfinir qu'est-ce que changer... les priorités. C'est la formation en fait aujourd'hui.
C'est la formation et puis c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui auraient droit en plus à des protections sociales. Les gilets jaunes, c'est pas les 7 millions de plus pauvres.
C'est pas les travailleurs pauvres, effectivement.
Et donc, mais c'est vrai qu'avec les États-Unis, c'est très intéressant parce que c'est une société où il y a très peu de chômage, et où malgré tout, il y a cette expression populiste que vous décrivez tout de suite aussi.
Et là aussi, un sentiment d'abandon.
Alors on va ouvrir une page États-Unis à présent avec vous, Laurence Nardon, vous qui êtes spécialiste responsable du programme États-Unis à l'IFRI. Les États-Unis, deux grands dossiers en ce moment. Il y a un dossier économique, on va l'aborder, mais il y a un dossier international militaire avec des décisions importantes. Tout d'abord, le président Trump cette semaine qui a décidé le départ de quelques 2000 soldats stationnés en Syrie. Il annonce en même temps le départ, le retrait de 7000 des 14000 soldats présent en Afghanistan, deux décisions qui vont avoir de lourdes conséquences géopolitiques.
Ah ben certainement, même si le reste de la coalition des Occidentaux en Irak, en Irak et en Syrie reste sur place, dont la France, dont la Grande-Bretagne et d'autres pays de l'OTAN et des pays locaux d'ailleurs, des pays du Moyen-Orient sont également membres de cette coalition. Mais je crois que... Au-delà de ce que ça peut donner dans ces régions, il faut voir que le président Trump aujourd'hui est en train d'appliquer son programme de politique étrangère tel qu'il l'avait annoncé pendant sa campagne, c'est-à-dire un programme nationaliste, non pas nationaliste de conquête, mais au contraire un nationalisme de repli qui consiste à rentrer à la maison, ramener les boys à la maison, donc la moitié des troupes américaines en Afghanistan également, et ça s'accompagne de son torpillage systématique des institutions internationales, du multilatéralisme, aujourd'hui des relations transatlantiques, que l'on voit aussi dans le domaine économique avec sa remise en cause du libre-échange. On a vraiment un président américain qui remet en cause tout l'équilibre international. Je crois que c'est extrêmement dangereux. Alors, peut-être qu'il ne va pas rester très longtemps, mais ça reste à voir.
C'est une question que je vais vous poser tout à l'heure. Vous avez commencé à soulever ce lièvre. Avant cela, à 20h20, on va faire un nouveau point sur l'info avec vous, Romain Desec.
La mobilisation des gilets jaunes marque le pas. Près de 39 000 personnes contre 66 000 samedi dernier à la même heure. 220 manifestants ont été interpellés en France, 80 placés en garde à vue, dont Éric Drouet, l'un des initiateurs du mouvement. Les canons à eau ont été sortis sur les Champs-Élysées où des policiers ont été pris à partie. Les gaz lacrymogènes utilisés à Bordeaux, Toulouse, Rouen ou encore à Amiens. Les gardes-côtes espagnols autorisent le navire humanitaire espagnol à accoster à son bord 310 personnes, des migrants sauvés hier au large de la Libye. Malte et l'Italie ont tour à tour refusé d'accueillir ce bateau. Sherif Shekat a été enterré à Strasbourg ce matin dans un strict anonymat selon le maire de la ville. On a appris aujourd'hui que l'auteur de l'attaque terroriste a prêté allégeance au groupe État islamique dans une vidéo qui a été retrouvée sur une clé USB lors d'une perquisition. Le top 14 de rugby, le succès de Toulon qui se donne un peu d'air, victoire 40-7 avec le bonus offensif face à Lyon. Un peu plus tôt, le Stade français s'est imposé 19-6 contre Agen, toujours pas de victoire pour Perpignan, battu sur la pelouse du Racing 64-28. Et puis elle a seulement 23 ans, elle a déjà signé sa 50e victoire en Coupe du Monde. La skieuse américaine Michaela Schifrin s'est encore imposée cet après-midi sur le slalom de Courchevel, dans sa ligne de mire, le record absolu de victoire détenu par Ingemar Stenmark.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
Dans ces informés de France Info avec Benoît Fidélin, Laurence Fischer, Laurence Nardon, Abnou Chalmani, on parle de la politique américaine de Donald Trump. Une question encore pour vous, Laurence Nardon. Est-ce que Donald Trump serait plus intéressé par son industrie de défense que, et donc par les commandes publiques, par l'emploi, que par la stratégie militaire en elle-même et donc par la géopolitique? Est-ce que c'est ça qui compte avant tout pour lui? Le carnet de commandes, faire tourner son industrie de l'armement.
Bah, il faut quand même pour son industrie d'armement qu'il ait des théâtres d'opération. Donc,
il peut pas
détruire son armée et avoir une armée à la Suisse, ce serait impensable. Mais je pense que vous avez raison de dire que pour lui, la géopolitique n'a pas beaucoup d'intérêt, ou alors il la lit comme l'intérêt des États-Unis en premier, dans une vision qui est toujours la sienne depuis le début. Entre parenthèses, juste, c'est important de dire là que on prend ce président pour un fou, il est très imprévisible, c'est vrai, il est très brutal, etc. Mais en même temps, il a une très grande cohérence dans sa politique, aussi bien étrangère qu'intérieure.
America first.
America first, le nationalisme, l'intérêt du peuple américain considéré de manière très, très étroite. C'est-à-dire que pour lui, tout est transactionnel, tout est un jeu à somme nulle. Il n'y a pas de coopération dans le monde international qui soit intéressante. C'est on gagne ou on perd. Et on ne peut pas, par exemple pour lui, une alliance comme l'OTAN coûte de l'argent aux États-Unis, oui. et finalement n'a aucun intérêt, puisque faire des choses avec les autres, ça n'est jamais intéressant. Il faut être le seul.
Amnous Al-Mahdi, les États-Unis se retirent du conflit en Syrie. Ils abandonnent les Kurdes, voilà, qui ont pourtant été décisifs dans la reconquête du terrain face à Daesh.
C'est ça que et je suis tout à fait d'accord. Je pense que alors après il a une méthode, hein, il a une manière de faire avec Twitter qui révèle un peu quand même d'une sorte de psychopathie quand même, parce qu'il y a quand même des phrases qui sont, mais il l'avait dit, America First, il le fait. Par contre, les décisions que lui, la manière dont il se retire de la géopolitique, là, on est dans une zone qui est extrêmement problématique, et c'est un euphémisme, qui est effectivement l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, quand même les talibans sont là, ils attendent de voir ce qui se passe avec l'Iran, la Turquie, avec Bachar al-Assad, plus les Russes qui sont en Syrie. Là, on est un peu dans une configuration comme l'Allemagne après-guerre. C'est-à-dire, chacun est en train de prendre sa zone d'influence, les Iraniens d'un côté, les Turcs de l'autre, les Russes de l'autre. Ce qui est complètement tragique, ce que j'allais dire, c'est une constante de l'histoire, c'est les Kurdes. On est en train de lâcher les Kurdes qui ont été en première ligne, qui ont été la chair à canon, dont une majorité de femmes, je tiens à rappeler quand même l'armée kurde. Il y a une armée kurde féminine et féministe qui a fait un boulot franchement remarquable, et des familles qui envoient leurs aînés filles faire la guerre, sachant qu'elles n'ont pas le droit de se marier, de faire d'enfants, qu'elles sont condamnées à être guerrières toute leur vie. C'est quand même un peuple qui souffre depuis très longtemps, et en se retirant comme ça, il est non seulement en train d'abandonner les Kurdes, mais à qui il les abandonne? À Erdogan. Et à qui il va vendre? Il n'a pas besoin, lui, d'aller faire la guerre pour que son industrie de l'armement fonctionne. Par contre, là, il a signé avec Erdogan, et Erdogan est un type extrêmement dangereux, je ne cesserai de le répéter.
Erdogan, on précise que c'est le président turc. Benoît Fidélin.
Oui, j'approuve ce qui vient d'être dit, notamment sur l'abandon des Kurdes et ce que vous venez de dire, madame, de l'IFRI. C'est un ordre américain régional, un peu post-américain qui se met en place dans la région. Il y a un journaliste de La Croix, qui est le quotidien du groupe Bayard, François d'Alençon, qui a un blog et qui a bien reconnu ça. C'était très intéressant sur son blog. Et moi, j'étais en Asie, il y a pas longtemps, là, au Vietnam, où il y a une inquiétude, comme en Europe, sur le retrait de Trump. Par exemple, le retrait de Trump, c'est la place, toute la place à la Chine. Exactement. Pour qu'elle occupe des îles en mer, ce qu'on appelle du Vietnam, mais de mer de Chine méridionale, aux grandes craintes des Philippines et du Vietnam et des autres pays. Et c'est le champ libre à Poutine en Syrie. C'est le champ libre pour essayer de passer par-dessus l'Europe, pour dialoguer directement avec Poutine. Donc c'est quelque chose, c'est la négation de tout ce qu'on a construit depuis la guerre. C'est la multilatéralité. Et finalement, il y a un spécialiste du German Marshall Fund à Berlin qui a dit, c'était extraordinaire, qui a dit « Davantage d'Amérique d'abord, c'est davantage d'Amérique seule. » Et qui peut se rapprocher de Poutine par-dessus la tête des Européens, affaiblir l'OTAN et isoler l'Union européenne et l'Allemagne. Voilà. Et j'ai trouvé ça très très juste, cette équation internationale aujourd'hui, qui est due à l'action de Trump, qui, cela dit, vous dites, il a des foucades, il a une, il est quand même, je trouve que le shutdown qui arrive aujourd'hui arrive alors, aussi dans, on va en parler, mais dans des conditions vraiment de grandes secousses.
Laurence Nardon, il a un problème aussi, le président Trump, avec ses élus, puisque les sénateurs ont adopté une résolution demandant la fin du soutien américain à l'Arabie Saoudite dans la guerre au Yémen. Et pour la première fois, républicains et démocrates ont voté le War Power Act qui limite les pouvoirs présidentiels dans le cadre d'une intervention militaire.
Oui, oui, alors parce que ça illustre tout à fait cette décision sur le soutien, le fait qu'il réclame un arrêt du soutien militaire à l'Arabie Saoudite, ça illustre le fait que, alors les démocrates, c'est pas surprenant, mais la majorité des républicains de l'establishment, enfin traditionnel, quoi, ne sont pas du tout d'accord avec cette politique étrangère de Trump, parce que ce sont des traditionalistes, ils sont internationalistes, d'employer pas trop de mots compliqués, mais enfin c'est des gens qui sont des tenants de la diplomatie traditionnelle, qui sont attachés aux alliances et au droit international, aux institutions, et donc ils sont pas du tout d'accord avec leur président. Jusqu'à présent, ils se sont souvent écrasés parce qu'en fait, les républicains aujourd'hui, et c'est le grand problème, sont dans un état de stupéfaction par rapport à leur président Trump. Et même s'ils sont pas d'accord, ils osent pas tellement se dresser contre lui. Ils l'ont fait là sur l'Arabie Saoudite.
Voilà. On va poursuivre ce débat des informés, parler encore une fois du président Trump, de l'économie américaine, mais parler aussi de votre roman Amnous Chalmani, de votre travail Laurence Fischer auprès des femmes victimes de violences. Mais avant cela, on fait un point météo.
Avec le pack Open Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux.
Moi, avec le forfait Orange 50 Go, je révise mes chants de Noël en streaming.
Et ben moi, avec le forfait Orange 50 Go à 9,99€, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille.
50 Go de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper. Hein.
Avec Orange, profitez du forfait mobile 50 Go pour clients pack Open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 janvier 2019, 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
On fait un point sur le ciel de ce dimanche avec vous, Jean-Michel Goulinski, Météo France.
Demain, c'est un temps maussade qui va survoler une large moitié nord du pays, de la Manche au nord de la Nouvelle-Aquitaine et de la Belgique à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des pluies toujours poussées par un vent d'ouest sensible, notamment près de la Manche et sur le relief de l'Est. Sur les régions plus méridionales, les brouillards, surtout axés au sud de la Garonne, seront suivis d'un ciel voilé mais sec du Périgord au Rouergue. Il sera plus ensoleillé près des Pyrénées et autour de la Méditerranée où le vent d'ouest sera turbulent des côtes varoises à la Corse. Les températures avant une baisse prévue en début de semaine, mais pas suffisante pour garantir un Noël blanc, vont rester ce dimanche dans un registre élevé pour la saison.
Vous écoutez France Info, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Emmanuel Langlois pour l'info.
Situation maîtrisée ce soir sur les Champs-Élysées. L'avenue a été rendue à la circulation. Les Champs-Élysées où les gilets jaunes avaient décidé de se rendre en fin de journée. Pas de dégradation. Au total, sur la journée et sur toute la France, 220 personnes ont été arrêtées. 81 placées en garde à vue. Pour le sixième acte de cette mobilisation, les gilets jaunes ont notamment ciblé les frontières. En Alsace, ils étaient une centaine rassemblés au niveau du pont de l'Europe de Strasbourg. Ils avaient installé des barricades empêchant les voitures de passer dans le sens France-Allemagne avant d'être délogés par la police. Hier vendredi, le Parlement adoptait les mesures d'urgence du gouvernement censées répondre à leur crise. Prime exceptionnelle, hors sub défiscalisée, pas de hausse de la CSG pour une partie des retraités. Ce n'est pas suffisant, estimait aujourd'hui Julia, venue de Niederbronn pour manifester à Strasbourg.
Ouais, un geste, c'est quoi? C'est les gens, 100 euros, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec 100 euros? Ils sont à la cave de 500 euros tous les mois. 100 euros, c'est quoi? Ça va les aider à rien. Ça va juste les aider à être imposables, c'est tout. Il y aura plus de monde qui sera imposable. Donc, en fait, on a tout dans l'os. C'est des miettes. C'est comme si nous jetaient des miettes dans les yeux pour qu'on arrête de se poser des questions. Mais il faut pas s'arrêter à ça. C'est insuffisant. C'est pas du tout tolérable.
Un témoignage d'une gilet jaune ce matin à Strasbourg. Et puis, une manifestation de gilets jaunes, là encore, a réuni au moins 800 personnes à Nantes. Elle a été marquée par de violents incidents. C'est ce qu'on apprend attend ce soir, notamment des tirs de mortier vers les forces de l'ordre et plusieurs dégradations, annonce ce soir la préfecture de Loire-Atlantique. Quant à la secrétaire d'État à l'économie, elle affirme que le secteur du commerce enregistre un recul moyen de 25% sur un an en raison de ces manifestations qui durent depuis le 17 novembre maintenant. Agnès Pannier-Runacher qui assure sur BFM TV que des milliers d'emplois sont en jeu. Dans l'actualité également, ces centaines d'Israéliens portant eux aussi des gilets jaunes pour imiter le mouvement de contestation sociale en France qui ont manifesté à Tel Aviv. Ils dénoncent notamment la hausse des prix de l'eau et de l'électricité prévue pour l'an prochain. Une vidéo d'allégeance au groupe État islamique retrouvée sur une clé USB appartement à Sherif Shekat, l'auteur de l'attentat du 11 décembre dernier sur le marché de Noël de Strasbourg. Attentat revendiqué par l'organe de propagande du groupe islamique. L'auteur de cet attentat a été inhumé à Strasbourg ce matin tôt dans un strict anonymat. Et puis un nouveau référendum, seule issue au chaos, c'est l'avis de Tony Blair dans une interview donnée à un quotidien suisse. Pour l'ancien Premier ministre britannique, l'organisation d'une seconde consultation sur le Brexit est en effet la seule manière de sortir de l'impasse, alors que Theresa May n'a toujours pas réussi à faire ratifier par son Parlement l'accord de retrait conclu il y a un mois entre Londres et Bruxelles. Du rugby avec le Stade français qui est resté sur 3 défaites en top 14 et qui retrouve le sourire en s'imposant à Agen 19-6 tout à l'heure en ouverture de la 12e journée, 20h33.
Les informés, Pierre Neveu.
À la deuxième partie des informés de France Info, dans ce studio, Benoît Fidélin, journaliste directeur de la rédaction du magazine Le Pèlerin, Laurence Fischer qui a fondé l'association Fight for Dignité. Je rappelle que vous avez été triple championne du monde de karaté. Laurence Nardon, docteur en sciences politiques, responsable du programme États-Unis à l'IFRI, auteur des États-Unis de Trump en 100 questions. Chez Taillandier et avec également dans, sur ce studio, Amnous Chalmani, vous publiez chez Grasset un roman intitulé « Les exilés meurent aussi d'amour ». On va en parler, mais avant ça, on continue à parler de la politique américaine de Donald Trump. Donald Trump qui se met tout le monde à dos, Laurence Nardon, puisque son général 4 étoiles, James Mattis, a décidé de claquer la porte. C'est le secrétaire américain à la défense. Il était là pour essayer de contrôler, comme d'autres militaires, le président américain. Aujourd'hui, il s'en va. Est-ce à dire pour autant que le chef de la Maison Blanche aura les mains libres ou il y aura toujours un encadrement militaire derrière lui pour lui donner des indications même s'il ne veut pas les entendre?
Ah bah, le staff du militaire au Pentagone reste en place, donc ça c'est sûr.
Mais il les épuise tous.
Oui, c'est-à-dire que dans le cercle de ses conseillers proches, et j'y ajoute les secrétaires, enfin c'est-à-dire les ministres dans le système américain, comme Mattis et d'autres, il fait le ménage et il remplace ceux qu'on avait appelés les adultes dans la pièce pendant sa première année de mandat, qui le cadraient un peu, qui étaient des gens très sérieux et sages, partent les uns après les autres. Vous avez parlé de Mattis, mais il y a aussi John Kelly, qui est le chief of staff, c'est-à-dire le secrétaire général de la Maison Blanche, qui part également. Et donc,
et là, aujourd'hui, on a appris que l'émissaire américain pour la coalition internationale anti-djihadiste, lui aussi, s'en allait.
Oui, alors, ce monsieur plus Mattis, le secrétaire de la Défense, partent en conséquence directe du retrait annoncé par Trump de la Syrie. Donc, ils ne sont pas d'accord, ils partent, c'est logique. Mais du coup, il est vrai que tous les gens qui étaient susceptibles de cadrer un peu le président s'en vont les uns après les autres et sont remplacés par des interventionnistes complètement... j'ai envie de dire dangereux, comme John Bolton, qui est son nouveau conseiller pour la sécurité nationale, et d'autres personnes comme ça. Et du coup, effectivement, on a une Maison Blanche qui est un bateau ivre.
Alors, en parlant des ennuis que connaît actuellement le président Trump, il y a un psychodrame classique de fin d'année, c'est le shutdown, cette paralysie partielle de l'administration américaine, fédérale. Tout cela parce que, il y a un bras de fer autour du financement du fameux mur que veut construire le président américain le long de la frontière mexicaine. Le Congrès ne veut pas souscrire pleinement à cette demande du président américain. Et là, Benoît Fidélin, on se retrouve dans une situation classique où près de 850 000 employés fédéraux ne sont pas payés, se retrouvent en chômage technique, sans solde.
Oui, alors c'est une situation que vous savez mieux que moi, que les États-Unis ont déjà connue, qui nous paraît, nous, totalement surréaliste en France. Ils ont déjà connu une fois 16, une fois 21 jours, voilà, quelque chose comme ça. Alors c'est quelque chose qui me paraît, moi, ce qui me paraît, quand on regarde ça, et sans être un spécialiste des États-Unis, c'est la concomitance de tout ce que vous venez de nous dire sur l'imprévisibilité aujourd'hui de la Maison-Blanche. On aperçoit ce rejet du multilatéralisme, tout ce qu'on a construit, je le répète, pas toujours très bien, mais entre les nations, pour faire la paix entre nous, pour essayer de collaborer pour le bien du monde. Et tout à l'heure, on parlera du Congo, on s'aperçoit que c'est très important aussi pour un pays comme la RDC où vous travaillez, que tout ça intervient en même temps, si vous voulez. Je trouve que c'est une secousse absolument incroyable et qui fait que les États-Unis... c'est le mot que j'ai employé, mais ça devient totalement imprévisible.
Alors je pose la question subsidiaire, Laurence Nardon, vous avez commencé à l'évoquer. Est-ce que 2019, le président Trump, à la fin de l'année 2019, l'année prochaine, sera toujours à la Maison-Blanche?
Alors, il pourrait soit être pris dans une procédure d'impeachment à la suite des enquêtes du procureur Mueller, mais on sait ça très bien.
Mais lui-même, il a envie de rester? Il pourrait claquer la porte?
Je ne vais certainement pas m'engager sur des actions futures du président Trump, parce qu'il est quand même extrêmement imprévisible. Mais ce que je voulais rappeler sur le shutdown, dont on a parlé une seconde, c'est que ça révèle quand même son sens politique très fin, parce qu'en fait, ce trublion de la Maison-Blanche est quand même assez malin. Le shutdown, en fait, c'est une loi de finances rectificative pour rajouter un peu de budget en fin d'année, si on n'a plus. Et alors, comment ça se passe? Le Congrès vote une loi, et ensuite, le président doit la signer. Et en fait, ce qui se passe là, c'est qu'il fait un chantage affreux. Il refuse de signer cette loi de finances de budget supplémentaire en disant « je ne voterai pas ce budget supplémentaire tant que vous n'aurez pas mis dedans 4 ou 5 milliards pour la construction du mur. » Alors, au Sénat, où il y a la majorité républicaine est assez faible, les démocrates sont suffisamment nombreux pour refuser, si vous voulez, de faire cela. Et Trump, si vous lisez ses tweets depuis 2-3 jours, blâme les démocrates en disant « mais c'est pas moi, le shutdown, c'est pas moi, c'est les démocrates du Sénat qui refusent de m'accorder l'argent pour le mur alors que c'est une situation de danger pour le pays, ces migrants qui arrivent. » Alors là, on tombe dans tout son discours. Donc voilà ce qui se passe avec le shutdown. Et voilà, je pense qu'il faut quand même souligner qu'il est très malin, parce que si vous regardez Fox News aujourd'hui, clairement, le shutdown, c'est la faute des démocrates.
C'est toujours la faute de l'autre. Hein.
Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est assez efficace. Et donc, c'est pour ça qu'on a parlé de sa démission.
Voilà.
Parce que cette semaine, c'était un journaliste, Chris Matthews, qui a dit qu'il pourrait être éventuellement tenté de démissionner dans les semaines qui viennent. Alors, ça n'a rien à voir avec le shutdown, ça a à voir avec l'enquête Mueller. L'étau se resserre autour de la fille Ivanka et du gendre du président, Donald Junior. Et du coup, le président pourrait être tenté de faire un deal avec la justice en disant, voilà, je me retire, mais vous ne poursuivez pas aucun membre de ma famille.
De ma famille, voilà.
Alors, c'est un peu bizarre pour nous, mais ça s'est fait en 73. Spiro Agnew, qui était le vice-président de Nixon en 1973, avait démissionné à la suite d'un deal avec la justice qui n'avait rien à voir avec le Watergate en l'occurrence, mais parce qu'il avait triché avec les impôts dans les années 60, etc. Et plutôt que d'être poursuivi, le deal avait été, alors c'est très surprenant pour nous Français, je démissionne, mais en échange, vous me garantissez que vous ne me poursuivrez pas. Et donc, ce journaliste Chris Matthews, dont je parlais il y a une seconde sur je ne sais plus quelle chaîne, a suggéré cette semaine que peut-être le président pourrait faire pareil.
Bon, on va suivre ça durant cette année 2019 qui va nous réserver pas mal de surprises. On poursuit ce débat des informés, mais avant cela, à 20h40, on fait un nouveau point sur l'info avec vous, Romain Desec.
L'une des figures du mouvement des Gilets jaunes, Éric Drouet, a été placé en garde à vue en marge de la mobilisation. Il sera déféré dans la soirée devant le parquet. Comme lui, une quinzaine de manifestants ont été placés en garde à vue dans la capitale où 2000 personnes se sont réunies. Quelques tensions ont été relevées sur les Champs-Élysées. Tensions également à Toulouse, à Lyon, Bordeaux où les gaz lacrymogènes ont été utilisés. Et puis à Nantes, les forces de l'ordre ont été visées par des tirs de mortier selon la préfecture. Des dégradations ont également eu lieu dans le centre centre-ville. Au total, près de 39 000 gilets jaunes se sont mobilisés partout dans le pays. C'est moins que samedi dernier à la même heure. Des sapins de Noël, du foie gras et Michel Drucker, les soldats de la force Barkhane au Tchad, fêtent Noël avant l'heure. Emmanuel Macron est avec eux pour la deuxième année consécutive. Un millier de militaires sont invités au repas. En Seine-Saint-Denis, il sera difficile de joindre le SAMU lundi toute la journée. Mouvement de grève des agents qui dénoncent un manque de personnel. Ils ne peuvent plus répondre correctement aux appels téléphoniques. Sur la journée d'hier, par exemple, seuls 8% des appels ont été décrochés dans la minute, selon un médecin délégué CGT. Dans 20 minutes, le coup d'envoi de 9 matchs de Ligue 1 avant la trêve hivernale. Un duel de mal classé entre Monaco et Guingamp, et puis Marseille est en déplacement à Angers et essaiera de finir 2018 sur une bonne note.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Nos informés de France Info ce soir, Benoît Fidélin, Laurence Fischer, Laurence Nardon, Amnous Chalmani, vous avez publié il y a quelques semaines un roman chez Grasset intitulé « Les exilés meurent d'amour ». Alors on précise que vous êtes arrivé à Paris avec votre famille à l'âge de 8 ans, famille qui a été chassée par les mollahs iraniens. C'est un roman où vous nous décrivez la vie d'une famille d'Iraniens exilés qui arrive à Paris. Alors je résume, il y a beaucoup de personnages, une mère magicienne, il y a des engagements politiques révolutionnaires, il y a trois sœurs qui sont toutes qui ont toutes des fêlures, tout cela raconté au travers du regard d'une petite fille qui s'appelle Chirine, qui observe toute cette vie d'exilé sous un canapé. Il y a forcément un peu de vous-même dans ce roman, et il y a des phrases qui claquent, comme celle-ci, l'exil, c'est une claque qui vous déstabilise à jamais, c'est l'impossibilité de tenir sur ses deux pieds, il y en a toujours un qui se dérobe, comme s'il continuait de vivre au rythme perdu.
Oui,
c'est ça, l'exil.
L'exil, avant tout, c'est un déséquilibre. C'est on perd un centre de gravité. C'est qu'on ne retrouve, à vrai dire, plus jamais, puisqu'on est arraché à son pays natal. Donc là, c'est un exil. Donc c'est des réfugiés politiques qui tentent une révolution, qui perdent et qui se retrouvent à Paris. Donc c'est d'abord ça. Oui, l'exil, c'est d'abord une déstabilisation. Ensuite, il y a, c'est ça. Tout ce que j'ai voulu faire, moi, c'est justement de sortir du drame des migrants pour aller vers une tragicomédie, pour essayer de donner, un livret dramatique à l'exil, parce que je n'en peux plus, moi, d'entendre parler des exilés comme je l'entends, qui sont complètement déshumanisés et qui sont déshumanisés en étant sanctifiés. Moi, mes exilés, continuent d'aimer, de détester, d'avoir des idées à la con, d'avoir des engagements complètement stupides. Alors, ça reste des humains.
Ils découvrent les valseuses à la télévision. Alors, je vous cite, voilà ce qu'était la France, à poil et en voiture, le contraire de l'immobilité et de la prison, de l'exil.
Oui, et je le rajoute, le personnage, j'étais sauvée. C'est
la
vrai.
La culture française nous montrait son cul.
Oui, mais c'est vrai, je pense que c'était, parce que nous sommes, maintenant, après 33 ans d'exil, je pense que je peux dire que les hommes se ressemblent étrangement, quelle que soit leur origine, et que là où on bute, c'est effectivement sur des différences culturelles. En l'occurrence, là, entre l'Orient et l'Occident, c'est le corps des femmes. C'est sur le corps des femmes qu'on bute, puisque...
Alors, vous dites dans votre livre, le corps de la femme n'existe pas en Iran, ni dans la poésie, ni dans la littérature, ni dans les conversations. Ce refus du corps, les Iraniens l'ont intégré.
Oui, je pense. C'est assez étonnant. On a une poésie mystique absolument passionnante, sensuelle, où ça parle de vin, d'amour charnel, d'amour divin, Omar Khayyam, Hafez, on a les mystiques soufis, c'est juste un bonheur. Et à force de les lire, à un moment, j'ai fini par me rendre compte que on décrit le visage, le regard. Alors le regard, pas tous les regards, parce qu'en Iran, on n'a pas de beaux yeux. On a inévitablement des beaux yeux et des beaux sourcils, mais tout s'arrête au niveau du cou. Il n'y a plus de corps. Le corps disparaît complètement. Donc effectivement, une gamine de 8 ans qui, en plus, vient de vivre la révolution iranienne, la révolution des mollahs, où toutes les femmes, tous les corps sont recouverts, où il n'y a plus de singularité, plus de beauté, arrive au Louvre. Première chose sur laquelle elle tombe, c'est l'hermaphrodite endormie. Donc c'est déjà un choc assez extraordinaire, mais surtout de découvrir ce lieu extraordinaire où source d'inspiration, de révolution, de liberté, d'idées, c'est le corps de la femme. C'est extraordinaire. Et même dans les parties où c'est la peinture religieuse italienne, c'est quand même fascinant, parce qu'on arrive, évidemment, celle qui servait de modèle à la Vierge Marie, c'était des courtisanes. Donc elles étaient sublimes. Et donc même sur des peintures religieuses, il y a quelque chose d'un peu cochon, d'un peu coquin de cette Vierge Marie. Il y a un saint qui déborde, il est sublime, c'est une courtisane. Donc c'est quand même là le choc culturel. Donc le valseuse ne fait que rajouter à ça. C'est ça la différence, c'est que tout d'un coup, le plus de corps, et là on arrive en France, c'est la liberté du corps.
Benoît Fidela.
Oui, je trouve que vous en parlez très très bien de l'exil. Victor Hugo disait, il y a pire que la mort, il y a l'exil. Et moi j'ai été, c'est un témoignage personnel hein, que je donne parce que je connais bien le Cambodge, je suis allé beaucoup et je me suis occupé pendant, j'étais président d'une association qui a intégré 20 000 Cambodgiens en France, qui fait du développement là-bas maintenant. Et quand j'en étais président, il y a des exils qui se passent bien mais qui restent des plaies terribles. C'est-à-dire qu'il y avait 60 000 Cambodgiens qui sont venus en France à l'époque où il y avait de l'emploi en France, dans les années 75 à 79, jusqu'au début des années 80. Et ils restaient presque tous se sont insérés. Presque en une génération, tous se sont insérés. Donc on pourrait dire, bah voilà, on peut changer. Mais quand on connaît bien cette population, il reste des fêlures absolument terribles. Terrible, une difficulté à renouer avec son pays qui a été ravagé à l'époque par les Khmer Rouges.
Mais c'est et pas donc, juste une
c'est quelque
fêlure,
chose, voilà, même
positif.
Quand ça se passe bien, il reste quelque chose d'inouï.
Il reste une fêlure, mais justement, raison de plus pour faire de cette fêlure un monde de possibles, c'est que moi je tiens quand même absolument, et j'ai voulu le développer dans le roman, c'est que l'exil permet aussi une liberté qui n'est pas possible sans elle. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment où c'est impossible d'être totalement français, comme c'est impossible de retourner vers l'Iran. Donc on se retrouve dans une situation comme ça, bâtarde, de métèque. Et même si c'est compliqué à accepter, arrive un moment où on se rend compte que c'est la meilleure place du monde. En tout cas moi, alors là je sors de mon roman, de mon avis personnel, et ce que j'ai essayé d'insuffler dans mon roman, c'est que finalement, l'avantage d'être un métèque, c'est qu'on n'a pas de frontières, on n'a absolument pas de limites, et c'est là où l'exilé pour moi rejoint la figure de l'écrivain, où je suis dans un domaine de possible absolue, c'est-à-dire je m'approprie ce que j'ai envie de m'approprier, je me suis pris cette langue française, je l'ai fait mienne, j'ai pris cette culture, je l'ai fait mienne, j'ai choisi d'être française le jour où découvert Toussaint l'Ouverture, ça a été, je me suis dit si Toussaint l'Ouverture c'est dit un matin, ça parle de moi cette déclaration, et ben moi aussi j'ai le droit d'être française, et au final après la fêlure, la douleur, l'impossibilité du retour, et ben arrive quelque chose d'éclatant qui est la liberté la plus totale.
Laurence Fischer, on parle du corps des femmes, vous, vous êtes devenue une militante de l'éducation par le sport, en allant sur le terrain, notamment en République démocratique du Congo, comme depuis le mois de mars dernier, la Maison des femmes de Saint-Denis, vous aidez les femmes victimes de violences à se reconstruire par le sport.
Oui, absolument. Et alors là, j'ai adoré votre intervention là, sur ce rapport au corps qui est essentiel. Et le constat que j'ai fait, en fait, en allant d'abord en découvrant que le viol pouvait être utilisé comme arme de guerre, en allant aussi précédemment en Afghanistan et en constatant justement le fait de ce qu'est la liberté, et me rendant compte aussi que j'étais ici une femme libre et que ces femmes là-bas ne l'étaient pas, que je ne savais pas ce qu'était la guerre. Je me suis pris tout ça en pleine conscience. Et effectivement, le moi, experte du corps, le corps qui m'a permis d'avoir confiance en moi, de savoir qui je suis à travers certes la performance, mais sportive, mais cette conscience et cette force que j'ai pu affirmer.
Le corps pour retrouver sa dignité, c'est le message que vous faites passer à ces femmes victimes de terribles violences?
Oui, absolument, parce que malheureusement, là-bas, au Congo, le viol utilisé comme arme de guerre, les conséquences, c'est une méthode qu'on a, où on se sert du corps de la femme pour elle-même la détruire et détruire tout son environnement. Et pour elle, se réapproprier ce corps meurtri, retrouver l'estime de soi, et c'est retrouver sa dignité, retrouver sa place dans la société, être présente à soi et aux autres, parce que les conséquences d'une violence telle qu'un viol ou qu'une agression, ou même que si on revient ici en France à Saint-Denis, qui accueille toutes ces femmes victimes, je préfère dire qu'elles ont été traumatisées et que c'est ce traumatisme qui a engendré
ces souffrances et par le corps en fait c'est aussi leur permettre effectivement de retrouver leur dignité.
On va poursuivre ce débat des informés de France Info. Avant cela, à 20h51, on fait un nouveau point sur l'info avec vous, Romain Desec.
Près de 39 000 gilets jaunes ont défilé un peu partout en France. Les plus gros cortèges ont été recensés à Bordeaux et Toulouse avec environ 2500 personnes. Dans les deux villes, des échauffourées ont eu lieu, tout comme à Nancy, Amiens ou Caen. À Paris, 2000 manifestants ont bloqué temporairement les Champs-Élysées. Les canons à eau ont été sortis, mais aucune dégradation à signaler. Des policiers ont été pris à partie. 36 personnes sont actuellement en garde à vue ce soir dans la capitale, dont Éric Drouet, instigateur du mouvement, qui sera déféré dans la soirée. Chérif Chekat, l'auteur de l'attaque sur le marché de Noël de Strasbourg, a prêté allégeance à l'État islamique. Une vidéo a été retrouvée sur une clé USB lors d'une perquisition. Daesh avait revendiqué l'attentat, revendication qualifiée d'opportuniste par le ministre de l'Intérieur. Chérif Chekat a été inhumé dans le plus strict anonymat à Strasbourg ce matin. C'est finalement l'Espagne qui accueillera le navire humanitaire avec à son bord 310 migrants. Le bateau s'est vu refuser l'entrée à Malte puis en Italie. Les migrants ont été secourus au large de la Libye hier. Aux États-Unis, les sénateurs reprennent les négociations pour sortir du shutdown, c'est-à-dire la fermeture partielle des administrations fédérales. Aucun compromis n'a été trouvé avec Donald Trump sur le financement d'un mur anti-migrant à la frontière mexicaine. Et puis le top 14 de rugby, toujours pas de victoire pour Perpignan, battu au Racing 64-28. La Rochelle s'est imposée à Pau 28-23 et succès également de Grenoble 17-16 face à Montpellier.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Comme tous les samedis soirs, on termine cette émission des informés par une séquence coup de cœur. Laurence Fischer, vous avez souhaité nous parler de Denis Mukwege, prix Nobel de la paix cette année.
Oui, absolument. C'est lui qui m'a inspiré la création de Fight for Dignity, parce que c'est un homme qui, avec son expertise, puisqu'il est gynécologue obstétricien, défend et dénonce aussi à travers son travail auprès des femmes l'état, enfin voilà, le manque de présence et de soutien, enfin le chaos dans sa région, le Kivu. Et pour moi, c'était un homme extrêmement inspirant qui m'a fait aussi prendre conscience que, avec mon expertise à moi, celle du sport, je pouvais aussi être actrice et pouvoir transmettre, permettre aux femmes de travailler aussi et de se réapproprier leur corps et retrouver la confiance en elles. C'est un homme grand par la taille, mais aussi par l'esprit et par tout ce qu'il a mis en place, en plus de manière innovante pour l'accompagnement aussi holistique de ces femmes, pour qu'elles retrouvent l'autonomie et leur dignité, bien sûr.
Abnous Chalmani, votre coup de cœur, le Goncourt des lycéens.
Oui, je partage aussi le coup de cœur de Laurence, je tiens à dire, parce que cet homme fait un travail absolument remarquable. Il a été prix Nobel de la paix. Je conseille à tout le monde d'écouter le discours qu'il a fait, où il dénonce effectivement tout ce que nous pouvons faire à notre niveau pour éviter que cette situation se dramatise encore plus, et c'est merveilleux de voir un homme qui s'implique comme ça des femmes. Moi, j'ai choisi comme coup de cœur, puisque rentrée littéraire oblige, et ça a été mon roman coup de cœur, c'est le roman Frères d'âme de David Diop, qui est un cri incantatoire sublime. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement brillant, c'est fin, c'est tout le roman est à l'intérieur de la tête d'un tirailleur sénégalais, donc il ne parle pas, il se parle à lui-même, il raconte avec une répétition magnifique qui m'a évidemment fait penser à un de mes auteurs cultes qui est Aimé Césaire. Donc j'en profite pour dire, achetez David Diop, mais profitez-en pour lisez Cahier d'un retour au pays natal.
Et ce livre, c'est sur la grande guerre de...
C'est sur la grande 14-18, ça se passe dans les tranchées. Et c'est surtout un questionnement sur qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce que le bien et le mal, est-ce que ne pas tuer son frère au moment où il souffre, c'est un signe d'humanité ou c'est un signe de lâcheté. Ça soulève des questions poétiques, humaines, absolument passionnantes. Et voilà, ça serait bien qu'on revienne à de la littérature. Et je suis persuadée de tout ce que nous venons de dire ce soir. On n'a vraiment jamais eu autant besoin de culture, de savoir, d'un pas de côté pour pouvoir regarder les événements politiques avec un peu plus de recul et un peu plus de poésie. Ça ferait du bien à tout le monde.
Benoît Fidélin, votre coup de cœur pour un livre.
Oui, pour un livre, qui est le livre d'un ministre. Alors, c'est pas pour faire de la propagande gouvernementale, mais j'ai lu le livre de Bruno Le Maire qui s'appelle Paul. une amitié.
Chez Gallimard.
Chez Gallimard, qui vient de sortir et qui est magnifique. C'est un petit livre. Paul, c'était un grand ami de lui qui est mort en trois mois atteint d'une tumeur au cerveau. Et il raconte, en même temps que son agenda de ministre, pris par les conseils européens, pris par les réunions, par les G7, par les G20, il raconte la présence obsédante de cet ami qui est en train de mourir, qui va le voir de temps en temps. Je trouve que c'est un livre d'une très grande beauté, d'une grande simplicité, très très bien écrit. Et puis il y a un dialogue entre cet homme qui meurt et qui est très croyant, et ce ministre absorbé complètement par son mandat, et qui en même temps, lui, est l'autre versant de la foi, qui s'en éloigne un petit peu. C'est très beau, c'est bien raconté, et puis voilà, ça témoigne d'une amitié qui survit à tout, et notamment à la mort.
Laurence Nardon, vous souhaitez nous attirer l'œil sur un article publié sur le site de l'IFRI.org.
En fait, c'est une note de recherche, hein. Ça doit faire plutôt 30 pages que 2. Ça reste un peu dans le registre un peu quand même lourd que vous avez choisi tous les trois sur les autres coups de cœur. On vient de sortir à l'IFRI une note d'information ou d'analyse sur la crise des opioïdes qui se déroule aux États-Unis et qui a quand même fait 50 000 morts en 2017, près de 50 000 morts en 2017, par overdose. Les opioïdes, c'est ces médicaments antidouleurs au départ, mais c'est aussi l'héroïne, c'est aussi des nouveaux produits fabriqués dans des laboratoires en Chine, comme le fentanyl, etc. Le fentanyl, il faut savoir que le chanteur Prince est mort d'une overdose de fentanyl. Et en fait, ce sont des drogues qui ont été au départ prescrites par des médecins pour des douleurs, et qui ensuite ont rendu les gens accros, et maintenant ils prennent de l'héroïne. Et c'est évidemment extrêmement grave. Et ça touche cette population blanche perdue aux États-Unis, en gros, l'électorat de Trump dont on parlait tout à l'heure. Cette note est extrêmement intéressante, je vous la recommande.
Allez, je vous remercie, vous quatre, ces informés se terminent. Amnous Chalmani, journaliste. Magnifique roman chez Grasset intitulé « Les exilés meurent aussi d'amour ». Merci Laurence Nardon, responsable du programme États-Unis à l'IFRI. Les États-Unis de Trump en 100 questions, c'est votre livre publié chez Talendier. Merci à Laurence Fischer, je renvoie à votre fondation Fight for Dignity. Merci également à Benoît Fidélin, journaliste, directeur de la rédaction de Pèlerin Magazine. On se retrouve demain soir entre 20h et 21h pour un nouveau numéro des Informés.